On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Dans cette émission de Carbone Zéro, Gilles et Michaela nous parlent d'une algue verte aux propriétés incroyables, la spiruline. Ils en font l'apologie en musique avec les spiruchons que vous entendrez dans l'émission. Tous ensemble, ils ont créé joyeusement l'association Unis vers la vie.
Ouais, l'initiative de cette association, elle revient quand même beaucoup à Gilles là, qui est avec nous. Donc peut-être c'est plus facile pour moi de parler de lui. Donc je vais le faire avec un grand plaisir. Donc Gilles, lui, ça fait depuis plus de 20 ans qu'il travaille sur la spiruline. Il est ingénieur agronome. Donc ce qui l'intéresse depuis tout le temps, c'est la culture de la spiruline. Il est allé visiter plusieurs sites où elle pousse naturellement. Il est allé aussi visiter plusieurs producteurs. Lui, il a vraiment une recherche pour qu'elle conserve au mieux ses propriétés, donc qu'elle soit cultivée au plus naturel possible. Et avec un grand, grand message, une très belle ouverture de cœur, où pour lui, la spiruline, c'est avant tout, et là, il rejoint Ripley Fox, qui lui aussi a consacré sa vie à la spiruline, avec une volonté qu'elle serve beaucoup pour les populations malnutries. Donc vraiment, d'être dans une spiruline solidaire, à savoir que naturellement, de toute façon, elle pousse plus facilement en Afrique, en Amérique du Sud qu'ici, hein, parce qu'en fait, c'est une petite algue, une micro-algue qui a 3,5 milliards d'années, et qu'on trouve à l'origine dans des lacs volcaniques. Et là, c'est vrai qu'elle a été redécouverte par des nutritionnistes à la fin des années 70, clairement au Tchad, et c'est vrai qu'elle a un intérêt fabuleux. Comme c'est un super aliment pour les populations malnutries. Donc, Gilles est là aussi œuvré auprès d'associations au Tibet, en Inde, qui s'occupent des enfants dans les orphelinats. Et c'est vrai que c'est ce qui tient à cœur à l'association de développer des actions pour que les enfants malnutris puissent accéder à cet aliment qui est pour eux comme vraiment une aubaine, quoi.
Enfin, la vie sur Terre vient des océans. La spiruline, tu disais qu'elle a plusieurs milliards d'années. Est-ce qu'elle a toujours été consommée par les peuples ou est-ce que c'est vraiment une découverte récente? On s'est rendu compte que cette algue pouvait être consommée et en plus pouvait apporter des éléments nutritifs intéressants pour le corps.
Alors on ne sait pas si elle a toujours été consommée par des peuples. On sait qu'elle est à l'origine de la vie, donc on est descendant de ce type d'organisme. C'est quand même important de se rappeler que c'est un peu notre arrière-grand-mère à tous.
C'est pour ça que tu as les yeux verts.
Et toi aussi. Et quelque part, on se retrouve autour d'un être aussi ancien, respectueux. C'est-à-dire, on a les mêmes racines, quelque part. Et est-ce qu'elle a été consommée depuis très longtemps? Tout ce qu'on sait, c'est que les traces les plus lointaines, c'est les Indiens du Mexique, autour du lac Mexico, Aztèque. La consommer, on a retrouvé des écrits espagnols et on sait que les Espagnols, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les Indiens qui la consommaient, ils ont vu qu'ils consommaient cette algue-là pour des raisons énergétiques, puisque c'était les coureurs surtout qui la consommaient, les messagers, parce qu'ils n'avaient pas de chevaux là-bas, donc ils allaient très vite en mangeant la spiruline. Et puis les Espagnols, quand ils ont vu ça, ils ont interdit au même titre que les plantes sacrées. Ils ont interdit la spiruline et ces populations ne l'ont plus consommée. Donc nous, on a perdu complètement la trace de la consommation de cette spiruline jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte dans les années 60-70, comme elle l'a mentionné. Voilà.
Quand tu regardes un petit peu la diversité alimentaire à laquelle on fait face, tu te rends compte qu'il y a souvent comme ça des effets de mode qui apparaissent. T'as le goji, les bêtes goji qui sont apparues sur le marché, t'as la quinoa il y a quelques années qui est arrivée. Maintenant on voit de plus en plus la spiruline. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ou c'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps pour tout ce qu'elle peut apporter à l'humain?
Bon, il y a le phénomène de mode, s'il y en a un, la spiruline, elle est arrivée avant le goji et la quinoa. C'est un phénomène qui est né aux États-Unis parce qu'il y a eu des grandes productions au Mexique de spiruline. Et dans les fins des années 70, ils ont commencé à faire une grande promotion de la spiruline comme un aliment diététique pour les régimes, pour les végétariens. Donc il y a eu une grande vague qu'on peut appeler phénomène de mode. Mais comme la spiruline a tellement d'autres atouts que celui cosmétique et diététique, ben, depuis maintenant plus de 40 ans, ben, la spiruline continue à faire des vagues et cette vague a passé le phénomène de mode pour aller vers un mouvement vraiment de conscience qui a encore de très beaux jours devant lui. Parce que ben, on commence à parler de spiruline et de cancer, de spiruline et de HIV, enfin de spiruline et de maladies de notre temps. Donc comme si la spiruline a encore de très beaux jours devant elle. Quoi. Donc le phénomène de mode n'est pas, ne la touche pas.
Moi je trouve que la spiruline elle arrive à un moment où il y a une nécessité, et pour l'homme et pour la planète, de réduire la consommation de protéines animales. Parce qu'aujourd'hui la surconsommation de protéines animales entraîne une surproduction de protéines animales. Vraiment, on est rendu à... On n'élève plus des animaux, on est à produire de la viande. Et ça a des dégâts considérables. Déjà parce que la production de protéines animales, c'est énormément de consommation d'eau. C'est polluant. Ça implique des cultures de soja, souvent OGM, qui entraînent la déforestation, qui entraînent de supprimer des cultures vivrières. Donc il y a vraiment ça au niveau de la planète. Ça me semble assez essentiel. On peut dire qu'il y a un génocide animal, hein. Il y a des centaines, voire des milliers d'animaux qui sont tués par jour pour notre propre consommation. Et les protéines animales, bah, pour notre corps, elles sont moins bonnes que les protéines de la spiruline parce qu'elles contiennent beaucoup de graisses saturées, elles contiennent des toxines. Bon, il faut savoir que dans 100 grammes de spiruline, on va avoir entre 65 grammes et 70 grammes de protéines qui vont toutes être assimilées par le corps. Dans 100 grammes de bœuf, on a 35 grammes de protéines, il n'y a que 15-20 grammes qui vont être assimilés par le corps. Donc voilà, moi en tout cas, vraiment, ça me fait plaisir, ça me réjouit de voir que de plus en plus de personnes remplacent les protéines animales par d'autres protéines. La spiruline, elle est super bien placée. Et c'est vrai qu'avec toutes les vertus qu'elle contient, en plus, il y a tellement d'autres choses. Bon, après, c'est clair que déjà, de remplacer par les légumineuses, c'est aussi très chouette, hein. C'est pas la spiruline à tout prix, mais en tout cas, c'est dans cette conscience-là, quoi. Voilà. C'est clair qu'en consommant de la spiruline, on fait du bien, ouais, à plus qu'à soi, quoi. Vraiment, on fait du bien, à la planète, quoi. Bon, déjà, moi, je pense qu'en faisant du bien à soi, si tout le monde fait du bien à soi, tout le monde va beaucoup mieux et youpi, quoi. Mais après, d'imaginer que, en consommant, mais de toute façon, en fait, moi, je m'aperçois tout simplement dans la vision globale. Dès qu'on est dans la conscience du bien à nous-mêmes, en général, on fait du bien à la Terre, puisque en fait, nous sommes les mêmes, c'est la même chose. On parlait des spiruchons, bon, Gilles peut en parler mieux que moi, mais voilà, spiru de spiruline et le chon, carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui composent tous les organismes vivants. Donc directement, voilà, on se fait du bien, et on fait du bien à la Terre, on est liés, quoi. C'est vraiment de retrouver aussi l'unité. La spiruline, elle rentre complètement dans cette vision, quoi. Et pour ça, c'est chouette. Et comme l'a souligné Gilles aussi, par rapport, il expliquait qu'effectivement, des personnes qui ont le cancer, des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, des personnes qui ont le diabète, enfin voilà, consomment aussi de plus en plus de spiruline. Bon, il y a aussi toute cette industrie pharmacologique, où on est beaucoup dans des médicaments chimiques, on se fait du bien à un endroit, on s'en fait du mal à un autre. À force d'utiliser ces médicaments, on réduit notre immunité. Donc il y a aussi que la spiruline, qu'elle possède la phycocyanine, elle booste l'immunité. Et c'est vrai qu'une médecine qui est préventive plutôt qu'une médecine curative, de toute façon, c'est mieux pour tout le monde, quoi.
Et la spiruline aujourd'hui se trouve pas confrontée un peu au problème du brevet sur le vivant, des gros lobbies qui sont là pour gérer les semences? On voit avec Cocopelli qui se bat pour libérer les semences, on le voit avec la stevia qui a été interdite à la vente. Est-ce que la stevia risque un jour d'être menacée? Oui, la spiruline d'être menacée, d'être interdite à la production et à la vente chez nous en Europe?
En prévention, en tous les cas, nous on fait la promotion de la culture familiale, parce que là ils auront du mal à nous déloger, puisque chacun fait un peu ce qu'il veut encore chez lui quand même. Elle n'est pas à l'abri. Elle n'est pas à l'abri. Elle a un grand intérêt, c'est qu'elle ne peut pas être brevetée pour l'instant. Ils ont essayé, mais ils n'arrivent pas à la breveter, donc parce que c'est quand même du vivant qui est difficilement, ils ont du mal à l'attraper, quoi. Et donc, elle est pour l'instant assez protégée, mais on reste vigilant et les professionnels restent vigilants. Donc, entre autres, par rapport à l'acquisition des semences et toutes ces choses-là, quoi. Donc, on est en train de s'organiser en prévention d'éventuelles récupérations.
Alors là, sur le stand, on voit plusieurs choses faites à partir de spiruline et surtout ce qui interpelle, c'est devant le stand, c'est une bassine avec un bassin, un spiruline. Ouais. On prend conscience que la spiruline, c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi.
Oui, c'est un des objectifs de l'association. Hein. Donc c'est promouvoir la spiruline pour l'humanitaire, mais aussi la spiruline chez soi, cultiver soi-même sa spiruline. C'est un peu, dans ce qui me concerne, un peu ma spécialité depuis quelques années. Donc j'ai fait un ouvrage qui va dans ce sens pour expliquer simplement comment cultiver. Et ça a été possible grâce au fait qu'il y a une personne qui a dédié sa vie à simplifier la culture pour les pays en voie de développement. Donc ce monsieur Ripley Fox dont elle a parlé. Et donc la culture aujourd'hui étant simplifiée pour les pays en voie de développement, moi j'ai récupéré un peu de ces informations. J'ai travaillé beaucoup dans le développement et en Afrique entre autres et en Amérique du Sud. Et avec ce savoir-faire, je le rends maintenant disponible à ceux qui veulent ici pour aller plus vers une démarche d'autonomie, on va dire, alimentaire, mais aussi dans une démarche écologique, parce que quand on le fait chez soi, on la cultive comme on veut, et surtout on peut la consommer fraîche. Donc, quand je fais la promotion de la culture, je dis cultivez votre propre spiruline et propre avec de petits guillemets, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on y met dedans.
On te trouve à l'état naturel, dans les lacs tu t'épanouis, aujourd'hui en bassin artificiel, pour pouvoir te cultiver ici, merci. Il est devenu essentiel d'expliquer aux gens ce que tu guéris, permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ta force de vie. Au Tchad, pays voisin, les gens consomment la paix si bien, ce médicament que le blanc soutient, il vient de chez vous, ça c'est certain. Personnes réunies autour de mêmes idéaux, traversant l'Espagne, Maroc, Mauritanie, destination Burkina Faso. Culture de spiruline, distribution, information, sensibilisation par différents moyens possibles, permettre l'entraide, l'échange entre les gens. Pour favoriser une meilleure santé, cette algue est tellement appropriée. Dans d'autres pays du monde, elle a montré son efficacité. Nécessite peu d'eau, peu de moyens et peu d'attention. En produire ici, c'est vraiment un beau cadeau pour la nation. Un geste décisif pour les enfants souffrant de malnutrition. Puis ces rencontres permettent un peu plus de concrétisation. Pour les malades oubliés, raviver la flamme de la guérison. Mama spiruline, donne-moi la force pour toutes ces réalisations. Ouvre mon cœur pour manifester ton amour en action. Ouvre mon cœur pour incarner ton amour en action. Ouvre ton cœur pour manifester ton amour en action. J'ouvre mon cœur,
tu ouvres ton cœur,
il ouvre son cœur,
nous ouvrons nos cœurs,
vous ouvrez vos cœurs,
ils ouvrent leur cœur. J'ouvre mon cœur,
tu
nous, il y a un bouquin, La spiruline pour tous. On va peut-être un petit peu le feuilleter et voir ce qu'on peut y retrouver comme information.
C'est un livre qui a été fait pour essayer de démystifier le fait que la culture spiruline, c'est compliqué. C'est fait pour les gens formés, scientifiques. Voilà. Donc moi, j'ai pris des informations très souvent compliquées dans des bouquins, puis je les ai simplifiées et de manière pédagogique, ludique, avec des dessins. J'ai essayé d'expliquer toutes les étapes d'une culture, en allant de l'aspect le plus simple à des aspects un peu plus complexes, si on veut être plus dans quelque chose de plus radical, d'autonomie. Donc à la fin du bouquin, on parle, si vous voulez cultiver sans rien acheter, donc là c'est tout à fait le thème d'ici, vous pouvez rester ici, là, ici et maintenant, vous restez sur ce terrain et vous pouvez cultiver la spiruline en totale autonomie, sans rien acheter. Donc ce bouquin explique aussi comment faire un bassin avec la terre, utiliser de la cendre pour faire le milieu culture, cultiver avec de l'urine pour être totalement autonome. Voilà, il y a tous ces possibles. Voilà.
La spiruline, enfin en général les plantes répondent à une valence écologique, hein, un certain climat qui leur est favorable ou non pour leur croissance et leur développement. La France, on a un super pays qui est diversifié, avec justement différentes latitudes et différents climats. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut adapter aussi bien dans le nord que dans le sud ?
Et oui.
De la France et peut-être même du monde dans les pays du Nord et dans les pays du Sud.
Au départ, on est parti sur des cultures plus orientées vers l'Afrique, puisque c'était surtout pour aider face à la malnutrition. Et il y a 15 ans, il y a un premier producteur qui s'est installé ici pour produire pour vendre la spiruline dans le sud de la France. Et maintenant, il y a des producteurs de spiruline qui revendent la spiruline, hein, j'explique bien, qui se trouve jusqu'en Normandie, en Bretagne. Et là, on est sur des projets maintenant en culture familiale, donc culture familiale aussi qui peuvent se faire partout en Europe, du moment qu'on fait ça dans une petite serre. On peut aussi faire à l'intérieur de la maison. Donc ce qui fait que dans la maison, dans des conditions totalement contrôlées, on peut le faire partout.
Michaela, raconte-moi ta rencontre avec la spiruline.
Alors ma rencontre avec la spiruline, alors écoute, c'était très étonnant cette rencontre avec la spiruline. Parce que j'étais dans un Rimbaud dans les Pyrénées et je vois un homme que j'avais rencontré dans un autre Rimbaud avec un grand seau et qui récoltait le pipi des enfants. Et du coup, juste ça, j'étais complètement hallucinée. Et en disant, la spiruline a faim, les enfants, c'est parfait. Parce que, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que déjà lorsque nous la cultivons à la maison, si nous décidons de ne rien acheter et de lui donner au maximum de la nourriture naturelle, parce que plus on lui donne des choses bonnes et plus elle nous donne des choses bonnes, donc ça c'est vraiment chouette. Ben l'intérêt c'est que déjà, parce que je vais lui donner mon urine, eh bien je ne vais plus fumer, je vais réduire les toxines, donc je vais réduire les protéines animales. Et déjà en la cultivant, nous nous soignons, ce que je trouve magnifique. C'est un magnifique échange. Et voilà, donc j'ai rencontré ces hommes et j'ai rencontré Gilles. Et puis je suis rentrée en Ardèche, là il y a un ami qui m'a dit « Ouais, je t'emmène, il y a un atelier, nanana, une rencontre ». Pour un projet, pour un orphelinat au Tibet, voilà, et ça m'a bien plu. Et là, moi, c'est un coup de foudre qui s'est passé, qui s'est produit pour moi, mais je crois que je peux parler pour l'ensemble des spiruchons, parce que c'est vrai qu'en fait, nous ne nous connaissions pas avant, et chacun a une histoire vraiment personnelle avec la spiruline.
Une petite table verte qui nous est offerte, j'en mange autant que je veux, et du coup je me sens mieux.
J'en mange à ma guise, comme des cerises, comme du gâteau, et comme ça je n'ai plus de bobos.
Une question que j'aime bien poser, comme ça, raconte-moi la spiruline aux enfants. Voilà, j'ai 5 ans, et maman, c'est quoi la spiruline ?
Alors la spiruline, c'est d'abord un super lien avec l'humain. C'est-à-dire que sa température idéale, c'est 37 degrés. Donc déjà, c'est ta copine, quoi. Avant tout, c'est ta copine. Ensuite, elle va donner plein de choses à ton corps et tu verras, ton corps, il sera trop content. Et d'ailleurs, les enfants qui sont allaités à la spiruline sont friands. C'est une gourmandise pour eux, clairement, quoi. Ils en redemandent parce qu'ils sentent que c'est bon. Et après, quoi dire d'autre ? Qu'elle fait du bien à la planète. Elle respire, Et puis il y a des chansons.
Avec la spiruline, pleine de vitamines, je ne suis jamais fatiguée et je peux plus m'amuser. Mélanger à de l'huile, c'est ma friandise. Mélanger à de l'eau, je préfère cette boisson au sirop.
4, 12, 7.
Je la garde dans un placard car elle se plaît dans le noir. Et je la mets dans un pot, elle se conserve comme il faut.
Dans le côté humanitaire, quand on va proposer un projet autour de la spiruline, comment est-ce que c'est accueilli ? Est-ce que les populations le connaissent ? Est-ce que les gens sont vite conquis par cette algue ?
La spiruline, elle a une telle efficacité, surtout sur des peuples qui ont faim, surtout sur des enfants malnutris, que finalement on n'a pas beaucoup à dire. Et on a surtout à donner la spiruline au départ pour enclencher l'intérêt. Mais après, eux-mêmes, ils voient parce que l'aspirine est extrêmement efficace sur un corps qui est affaibli. Ils voient que leur enfant récupère quelques jours, ils voient que des maladies qu'ils avaient depuis des années disparaissent. Donc après, le bouche à oreille va très vite. Donc ensuite, nous, notre objectif, c'est pas de changer l'alimentation traditionnelle, mais c'est de leur proposer ça comme une alternative à la guérison, quoi.
Quand on pense à la faim dans le monde, souvent un des problèmes aussi, c'est l'eau, l'accès à l'eau, et spiruline, une algue. L'algue, ça me fait penser justement au milieu aquatique. Donc comment est-ce qu'on arrive à cultiver une plante dans un pays sec et aride où l'eau manque?
Et moi, j'ai cultivé il y a peu de temps là, chez les Touaregs, dans un désert, il n'y avait pas d'eau. Il fallait chercher l'eau, aller chercher l'eau comme tous les enfants vont chercher l'eau à la source. Donc on a cultivé totalement isolé d'une source d'eau. Alors on a pu faire ça parce que la spiruline a très peu besoin d'eau, contrairement à l'élevage ou contrairement au jardinage. Quand on jardine, on arrose, la plupart de l'eau, elle part dans la terre, elle n'est pas valorisée par la plante. La spiruline, c'est des bacs fermés et la même eau est utilisée très longtemps. C'est un circuit, voilà, sur des années, on compense l'évaporation.
Spiruline qui nous unit vers la vie, rassemble nos envies de partage, d'unité, de solidarité. Puisse la caravane éco-solidaire et artistique créer un pont entre la France et l'Afrique. D'une joyeuse humanité symbolise les prémices. D'une joyeuse humanité symbolise les prémices. Spiruline qui nous unit vers la vie, rassemble nos enfants. Éco-solidaire et artistique, créer un pont entre la France et l'Afrique. D'une joyeuse humanité symbolise les prémices. D'une joyeuse humanité symbolise les prémices.
Qu'on la valorise, comment est-ce qu'on la consomme, fraîche, sèche?
Alors bon, je vais parler pour la fraîche. Bon là, nous sommes passés directement. Alors nous faisions un tartare de spiruline avec de la spiruline sèche. Là, nous sommes passés au caviar de spiruline avec la spiruline fraîche, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Hein, on le sent directement. Et c'était chouette, parce que là, sur le festival, les trois premiers jours, nous avions de la spiruline sèche. Et c'était très sympa de voir que les gens, dès qu'ils goûtent la fraîche, s'aperçoivent directement que c'est autre chose. On sent que c'est vivant, il y a une énergie. Bon, il faut savoir, On n'a pas abordé encore ce point-là, mais la spiruline, elle a un taux de reproduction de 25% par jour. Bon, ça prouve vraiment toute cette vitalité, quoi. C'est-à-dire, c'est un aliment de l'énergie très très fort. Et là, dès qu'on la consomme fraîche, voilà, c'est terrible. Alors, fraîche, nous, du coup, on a mis un petit peu moins d'ingrédients avec de la sèche pour que justement les gens aient plus le goût. C'est important de faire une osmomulation, moi, je dirais, avec de l'huile d'olive, une bonne huile de colza, enfin, un petit mélange d'huile. Après, ben, ça va être selon le goût de chacun, hein, quelques épices, un peu de sel, un peu de citron. Le citron, c'est vrai que ça relève bien le goût. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire un guacamole avec la spiruline, parce qu'en plus, les gens qui peuvent être rebutés un peu par le côté vert, du coup, ça passe complètement inaperçu. Et en général, ils sont assez surpris quand on leur dit après, parce qu'il y a quand même une croyance par rapport à l'algue, c'est le goût, c'est tout de suite. Donc c'est vrai que là, le centre sur les festivals nous permet aux gens de déguster sous différentes formes. Alors là, on la prépare aussi en sucré. Par exemple, ce matin, pour le petit déjeuner, on avait mélangé de la spiruline fraîche avec une petite confiture de châtaigne bio, écorce d'orange confite, délicieuse. Moi, je sais que les enfants en Afrique qui avaient du mal à la consommer, on la faisait avec des bananes écrasées et un peu de miel, tu vois. Donc, c'est des produits qu'on trouve très facilement là-bas. Et c'est vrai que tout de suite, ils se régalaient. Après, ce qui est important, c'est de ne pas la cuisiner, de ne pas la cuire, de ne pas la chauffer. Parce que comme ça, elle conserve vraiment tous ses nutriments. C'est vrai qu'on a aussi... peut aborder la question de sa composition, bon, on en reviendra après. Dans la préparation aussi, c'est bien d'introduire de la vitamine C, parce qu'elle possède beaucoup de fer, et que le fer, pour être assimilé, il a besoin d'être associé à la vitamine C. Donc ça peut être aussi un petit tartare de spiruline avec des plantes sauvages, du plantain, de l'ortie, ça va lui donner de la vitamine C, du persil, voilà, c'est une bonne façon. Et après, c'est vrai que chacun a des recettes différentes. Il y a un petit sucré salé aussi à la figue, au miel, au curry qui est très très bon. Enfin voilà, il y a plein de façons différentes de la consommer, quoi. Avec nos délicieuses préparations culinaires, ben voilà, les gens aussi, c'est le goût, le plaisir, c'est important. C'est pour ça, là, on fait aussi les petites sucreries, tu vois, ces petites gourmandises là d'Energy Bowl avec pâte de tarte, crème d'arachide, tout bio. Du coup, c'est la date qui sucre le produit, donc c'est que du bon sucre. Donc c'est que les gens aussi réalisent qu'il y a moyen de prendre du plaisir, parce que très souvent, le végétarisme ou même le crudivore, directement les gens ils disent « bon, maintenant il n'y a plus de plaisir, il n'y a pas de gastronomie ». C'est faux. Il y a vraiment la possibilité aujourd'hui de se régaler, même en cru, avec des pâtisseries qui sont divines. Et puis ça veut dire pas de cuisson, donc économie d'énergie, c'est tout ça aussi. Donc c'est, voilà, c'est de devenir... Alors, consommateur, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeune homme qui m'a dit « Oui, mais consommateur, tu réutilises le mot consommer, tu es de nouveau dans cette consommation. » Donc, je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas, ben, ce que je mange, c'est produit où, je l'achète où, c'est quoi le conditionnement? Parce que ce qui est aussi essentiel dans « Je cultive ma spiruline à la maison », c'est qu'il n'y a aucune transformation, quoi. C'est direct du producteur au consommateur, et il n'y a pas le séchage, le conditionnement, le transport. Voilà, c'est d'un seul coup d'élargir notre vision et voilà, ce qui vient nourrir mon corps et qu'est-ce que ça fait à mon corps. Alors là, notamment, après, c'est toutes les composantes de la spiruline. Hein, voilà, c'est juste phénoménal, quoi. Déjà, bon, le taux de protéines, on en a parlé tout à l'heure. Après, c'est énormément de fer, c'est aussi... énormément de vitamine A. Il faut savoir que c'est une carence qui est extrêmement répandue, particulièrement dans les pays dits développés. C'est pareil, c'est un terme un peu difficile à employer, mais tu vois, on voit souvent les images des enfants malnutris avec des cataractes. Hein. Bon, la raison, c'est la carence en vitamine A. Il y a 25 fois plus de vitamine A dans la spiruline que dans la carotte, qui est quand même le référent de la bêta-carotène. Et après, il y a tous les minéraux, enfin plus de calcium que dans le lait, du magnésium, je te laisse...
Il y a des molécules assez particulières aussi. Après, dans les atouts de la spiruline, il y a le fait qu'elle est extrêmement digeste. Ça, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais le fait qu'on puisse la cultiver en Afrique et pouvoir la donner aux enfants malnutris, c'est parce qu'elle est extrêmement digeste. Et du fait qu'il peut consommer la spiruline, ça recrée sa flore intestinale et de ce fait, il peut remanger de tout, rapidement. Donc il y a des taux de récupération qui sont incroyables. Et c'est la même chose pour les personnes qui ont le HIV. adultes ou enfants. Le fait de pouvoir consommer la spiruline alors qu'ils ont du mal à consommer d'autres aliments parce que leur flore intestinale est très abîmée. La spiruline joue un peu le rôle d'un probiotique, elle va reconstituer la flore intestinale, ils vont pouvoir digérer et redigérer les autres aliments et retourner vers la vie, quoi, on va dire.
C'est génial, gueule.
C'est génial, gueule.
Alors, cette spiruline, en fait, elle nous ressemble comme deux gouttes d'eau.
Bah ouais, elle nous ressemble comme deux gouttes d'eau. On peut montrer sa proximité avec nous, les êtres humains, en parlant, en fait, de la température à laquelle elle est cultivée. En fait, elle est en bonne santé à environ 37,2 degrés, hein, comme nous. Et elle meurt à plus de 42 degrés. Et on peut voir en elle une algue arc-en-ciel. Elle reprend des couleurs comme ça du prisme. L'arc-en-ciel, les couleurs primaires hein, dont on est tous constitués, dont la nature est constituée.
Vert.
De la chlorophylle, dont nous avons besoin nous aussi pour être en bonne santé.
Le bleu.
Du pigment, la phycocyanine, qui est tant recherché parce qu'en fait, il aide à augmenter les défenses immunitaires. Il a aussi.
Orange.
Du bêta-carotène, hein, la provitamina. Qui est si bonne, on l'a dit, pour la peau, les yeux, les cheveux. Mmh. Et enfin,
rouge.
De la phycoérythrine, hein, qui est un pigment utilisé dans la détection du cancer.
D'accord.
Mmh. Et elle est très très bonne pour la santé. Peut-être qu'on reconnecte par là aux premières formes de vie sur Terre.
Ah oui, c'est ça.
Mmh. Ouais. Elle est très détoxifiante en fait pour notre organisme. Hein. Elle désintoxique des métaux lourds, de la radioactivité. De la chimiothérapie, ouais, tout à fait, de la chimiothérapie, elle permet de réduire les effets secondaires nocifs des médicaments qu'on prend en allopathie. Elle est aussi intéressante pour traiter le cholestérol et le diabète. Elle permet d'atténuer les effets de l'arthrose et des allergies parce qu'elle est anti-inflammatoire. Et enfin, elle agit sur la fatigue chronique et l'anémie. Mais bon, comme ce n'est pas un médicament breveté, une molécule déposée par les laboratoires et les firmes pharmaceutiques, quel est l'intérêt d'en parler, quoi?
Ouais.
Et on revient à notre question, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas alors qu'elle est si efficace, hein?
On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone Zéro,
une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.